Le but de ce culte, ça a été de vous encourager pour rappeler la vision de l'Église globalement, mais aussi dans quelle direction nous voulons aller. Et à la sortie, dans le hall d'entrée, vous aurez plusieurs possibilités de mettre en pratique, de vous inscrire clairement pour des choses dont nous avons besoin. Le Seigneur en a besoin. Il a besoin de chacun de nous. Il avait besoin de ce petit ânon qui devait le transporter pour rentrer à Jérusalem. Et lorsque les gens disaient « Que faites-vous là? Pourquoi est-ce que vous enlevez cet âne ?» Eh bien, la réponse que Jésus avait dite, c'était « Le Seigneur en a besoin. Il a besoin de moi, de toi, de chacun d'entre nous. Il a besoin de tous, même du plus petit, du plus faible, du plus jeune converti, peu importe. » L'Église, nous devons peut-être quand même aussi redéfinir un peu de ce que c'est exactement. L'Église, c'est ceux qui sont appelés hors du monde, ceux qui ont accepté le salut en Jésus-Christ, ceux qui se sont repentis de leurs péchés, ceux qui les ont confessés, reconnus. Il faut d'abord reconnaître notre besoin. Et ceux qui commencent et qui veulent définitivement non seulement reconnaître le péché, mais recommencer après, non, mais abandonner, délaisser ce qui n'est pas juste, ce qui ne plaît pas à Dieu. Et ils sont ceux alors qui, par le Saint-Esprit, naissent de nouveau et qui commencent une vie nouvelle. L'Église, ce n'est pas juste un rassemblement de gens intéressés à la religion. L'Église, c'est ça. C'est ceux qui ont reçu Jésus, ceux qui sont passés par la croix. Je vous rappelle que lorsque vous êtes entrés dans cette salle, vous n'êtes peut-être pas rendu compte, mais vous avez passé sous une croix. Est-ce que quelqu'un s'est rendu compte de ça? Pas beaucoup, hein? Il faudrait peut-être le peindre différemment et puis ça nous frapperait un petit peu. Mais vous êtes passé sous la croix, une croix de 5 mètres de hauteur, 4-5 mètres. Eh bien, vous passez sous la croix en rentrant dans l'Église. Eh bien, spirituellement, ça veut dire qu'il faut passer par la croix pour rentrer dans l'Église et pour naître de nouveau par la puissance du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas produire la vie nouvelle. C'est Dieu qui produit en nous la vie nouvelle. Et il faut qu'il y ait les signes de la vie nouvelle. C'est ce que nous sommes en train de partager dans le cours de baptême en ce moment, où nous disons qu'il faut poser les bases de la repentance, de la foi, de la nouvelle naissance, avant de parler du baptême. Le baptême, ce n'est pas le moment où on est de nouveau, nous sommes déjà nés de nouveau avant, et le baptême, c'est le moment donc de l'alliance. L'Église, c'est le projet de Dieu. Juste pour rappeler sous forme très condensée, l'Église est universelle, le Seigneur construit et rassemble, le Seigneur bâtit son Église, je bâtirai mon Église, dit-il. Elle est universelle, elle est rassemblée sur toute la surface de la terre, dans tous les pays. Il y a des chrétiens, il y a des gens que Dieu cherche, qui sont nés de nouveau et qui appartiennent au même corps de Christ que vous et moi. Mais en même temps, il y a une réalité locale. Il n'est pas suffisant de dire « je fais partie de l'Église virtuelle » sur Internet, par exemple. Ou bien je fais partie d'une église universelle, mais surtout pas d'une église locale parce que ça ne me plaît pas ceci ou cela. Et ainsi, malheureusement, trop de gens restent déconnectés de la réalité locale et je vous encourage à rompre avec cet esprit-là. Mais de dire, Seigneur, je suis appelé à vivre ma foi dans le cadre d'une église, certes imparfaite, avec des forces et des faiblesses, dans des réalités humaines, mais je suis appelé à intégrer une église locale. Et j'aimerais vous demander, merci de faire l'effort de l'intégration. Il y a des gens qui sont dans l'église depuis longtemps, mais qui ont des attentes tellement grandes face à l'église qu'au bout d'un certain temps, ils s'en vont parce qu'on n'est pas venu vers eux. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être des lacunes, et il faut nous le dire lorsqu'il y en a. Nous faisons le maximum, nous nous donnons à fond pour vous, frères et sœurs. Mais c'est aussi à vous de faire le pas de l'intégration. C'est à chacun de dire, mais je vais me mobiliser, je vais faire quelque chose pour trouver ma place dans l'Église, car Dieu désire comme projet pour chacun de nous que nous soyons intégrés dans une famille locale. Chaque enfant fait partie d'une famille concrète. Il a un papa, il a une maman, il a des frères et sœurs d'une manière concrète. L'apôtre Paul va écrire aux églises qui sont dans des villes, dans des régions. Il s'adresse à des églises concrète, locale. C'est là, dans ce milieu-là, que Dieu nous plante pour avancer, pour évoluer. Et nous ne voulons pas être d'accord du tout avec ceux qui disent uniquement « je suis dans le corps de Christ universel ». Cela n'est pas biblique. Une église en bonne santé, c'est une église où il y a la présence de Dieu. Alléluia. Oh, comme j'aime ça. la présence de Dieu qui attire et qui crée en nous cette soif. Et cette soif doit être constante. Frères et sœurs, que vous soyez convertis depuis une semaine, une année, 10 ans, 20 ans, ou quel que soit le nombre d'années, il faut que cette soif de Dieu soit permanente dans nos cœurs. Si vous l'avez perdue, si elle a diminué, eh bien, cherchez la face de Dieu pour que vous puissiez retrouver cette soif, ce désir intense que crée le Saint-Esprit afin de vivre en permanence la présence de Dieu. Nous voulons avoir cette soif, pas simplement pour qu'il se passe des choses dans l'Église, mais avant tout pour le connaître, lui. Notre but est de le connaître, lui. Nous sommes là pour Dieu, pour lui et pour lui seul. Ensuite, pour en faire l'expérience et que sa gloire puisse descendre au milieu de nous, comme autrefois cette Shekinah, cette gloire descendait dans le temple et touchait et agissait au point que les gens étaient littéralement subjugués par la présence de Dieu, et dans cette présence se passent des choses. Moi, je m'attends et nous attendons en tant qu'équipe pastorale à chaque culte, à chaque réunion. Nous nous attendons à l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs, dans nos vies, et nous ne voulons pas seulement être une église qui est touchée. Nous voulons être une église dont les cœurs sont transformés, en voie de transformation. Il n'est pas normal, frères et sœurs, qu'au bout de tant d'années où nous sommes simplement touchés, nous soyons toujours les mêmes avec les mêmes traits de caractère imbuvables ou encore avec les mêmes problèmes qui surgissent et qui sont exactement les mêmes que nous avions avant notre conversion. Il faut qu'il y ait une transformation. Une transformation en profondeur qui doit nous conduire dans la libération de nos travers, de nos mauvais fonctionnements, de la guérison de choses anciennes ou de choses récentes. Le Seigneur est le Dieu qui guérit l'intérieur des cœurs, mais aussi les corps, et je veux m'attendre encore à de grandes guérisons au milieu de nous. Vous savez, nous recevons tellement de sujets de prière qui nous arrivent, et chaque sujet, dans les sujets de prière, il y a beaucoup de choses grave, beaucoup de choses difficiles. Rien que cette semaine, j'ai entendu 2 situations de cancer graves qui me sont arrivées. Ce n'est pas facile d'entendre cela et de répartir ces sujets dans les groupes et dans les murs de prière et autres. Nous voulons aussi voir la puissance de Dieu qui guérit même de choses incroyables. Nous voudrions voir des malades de cancer guéris. Nous voulons voir des morts ressuscités. Nous voulons voir de grandes choses se passer, des guérisons puissantes de plus en plus. Et je crois qu'au fur et à mesure que nous avançons dans la fin des temps, nous allons encore voir de grandes choses. Alléluia. Nous voulons voir donc de la restauration et des personnes qui avancent vers la maturité. Alléluia. Ayez comme projet, ayez comme vision plus de maturité. Plus de maturité. On ne confie pas à un enfant des responsabilités qu'il ne peut pas porter, mais on confie à un adulte responsable des charges, des responsabilités et des fardeaux qu'il est capable de porter parce qu'il en a la force et bien sûr l'expérience. Les cœurs sont transformés en vue de la maturité. Une église en bonne santé est très simple. La vision, j'aime la partager en quelques mots. Elle est simple, elle est formulée sous ces trois flèches. La première flèche, je l'ai déjà dit, ça monte vers Dieu. Nous sommes créés pour adorer, nous sommes créés pour l'adoration. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. C'est le premier commandement. Le Père cherche des adorateurs qu'il adore en esprit, en vérité. En esprit, en vérité. Donc notre première flèche, c'est une flèche verticale qui est un service, qui est un ministère pour chacun d'entre nous, qui est pour Dieu. Adorer, ce n'est pas chercher son bien-être. Ce n'est pas quelque chose qui est, c'est pas un acte spirituel centré sur nous-mêmes pour ressentir un bienfait. Il y a des personnes qui disent, oui, mais quand il y a tel groupe de louanges, je ressens plus des choses que quand il y a tel autre groupe de louanges. Ça, c'est pas de l'adoration. Ça, c'est de la sensibilité émotionnelle. Ça, chacun est libre de réagir face à tel ou tel style de musique ou tel cantique. Mais l'adoration, c'est dans l'esprit que ça se passe, c'est pas dans l'émotion. C'est l'esprit, mon esprit adore Dieu. Je me détourne de moi-même et je choisis de me tourner vers Dieu. Et mon esprit est en contact avec Dieu et je cherche la face de Dieu. Et je veux avant tout, écoutez bien, donner quelque chose. L'adoration, ce n'est pas chercher à ressentir quelque chose, mais c'est choisir de donner ma vie au Seigneur, donner mon adoration, donner ma louange. Je donne au Seigneur. C'est pour ça que nous disons que nous offrons un culte. Pas simplement nous venons au culte, mais nous offrons un culte à Dieu. La deuxième flèche, c'est une flèche qui revient vers nous. C'est une flèche qui part vers nous et qui revient vers nous. C'est la flèche qui... C'est tout ce que Jean-Paul a partagé tout à l'heure dans les cellules, au niveau des cellules. C'est acte 2, 42, c'est ces quatre priorités de la première église. C'est la communion fraternelle, c'est la prière les uns pour les autres, c'est s'aimer les uns les autres. Et les mots-clés, je vous les donnerai dans la diapositive suivante. Ces choses font partie de la discipline de chaque chrétien qui est nécessaire, qui va dans ce sens de prendre soin les uns des autres. Et les mots-clés que vous trouvez dans la Bible sont « exhortez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, édifiez-vous les uns les autres, consolez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, accueillez-vous les uns les autres. » Quelqu'un a dit « aimer, c'est le verbe le plus difficile à conjuguer. Son passé n'est pas simple, son présent est imparfait et son futur est souvent conditionnel. » Pour ceux qui aiment le français, voilà. Il est doux pourtant et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils étaient chaque jour assidus au temple et dans les maisons. Et cette flèche qui est au milieu de nous, qui, on va dire c'est une flèche qui tourne, c'est une flèche qui va de moi vers les autres et des autres vers moi, c'est ce qui connecte, c'est ce qui lie le corps ensemble. Et maintenant la troisième flèche, elle s'en va vers l'extérieur et elle s'en va dans toutes les directions et les quatre points cardinaux. Elle s'en va vers le nord, vers le sud, vers l'est et vers l'ouest. Nous avons un témoignage à rendre hors des murs de cette église. Nous avons à partager simplement ce que nous vivons. Et chacun d'entre vous, pas besoin d'être évangéliste qui a fait une longue série d'études bibliques là-dessus ou une longue école biblique pour être évangéliste, partage ton témoignage à quelqu'un. Partage ce que tu vis avec Dieu. Et si tu dis, moi je ne sais pas ce que je peux partager, alors cherche la face de Dieu pour que tu vives quelque chose d'abord. Vis quelque chose et puis partage-le. Si tu n'as plus rien vu se passer et que tu ne peux raconter que ton témoignage il y a 30 ans en arrière, c'est bien, mais ça ne suffit plus maintenant. Il faut que ton témoignage soit rafraîchi et renouvelé. Il faut que tu puisses dire, la semaine passée, ou il y a un mois, ou il y a quelques temps en arrière, j'ai vécu quelque chose d'incroyable avec Dieu. Moi, j'aime raconter mon témoignage, je le raconte systématiquement, des centaines de fois je l'ai raconté. Il est vivant plus que jamais, ça s'est passé il y a 40 ans. Mais j'aime aussi raconter ce que Dieu a fait récemment. J'aime les deux. Lorsque Dieu m'a touché pour la première fois et lorsque je rappelle un bienfait de Dieu, comment il est intervenu dans ma vie. Donc, ces trois flèches représentent la vision de notre Église. Simple. Adoration, communion fraternelle, édification mutuelle, etc. Et évangélisation, mission. Nous voulons aller le plus loin possible. L'église de réveil doit toucher le nord, le sud, l'est et l'ouest. Du pôle nord jusqu'au pôle sud. Et tout autour de la terre, que nous soyons actifs en Asie, en Inde, que nous soyons actifs sur le site internet, à la télévision, sur YouTube, que nous soyons sur le maximum de sites possibles et que nous soyons présents dans le plus de pays possible. Voilà. J'ai encore reçu une invitation ce matin de quelqu'un sur Facebook et j'ai répondu « Qui êtes-vous ?» Alors, elle m'a répondu. Je vous ai entendu hier soir dans un pays d'Afrique à la télévision et je veux vous contacter. Alors, toute la gloire au Seigneur. Mais nous voulons avoir une vision, justement. Une vision qui... Il faut que l'Évangile puisse être véhiculé par nos moyens et qu'on mette aussi tous les moyens financiers en œuvre pour annoncer l'Évangile jusqu'aux quatre coins du monde, partout où c'est possible, et spécialement en francophonie. Mais nous qui parlons aussi plusieurs langues, nous pouvons aller au-delà de la limite linguistique pour annoncer l'Évangile. Frères et sœurs, vous avez quelque chose à raconter. Faites-le par écrit, mettez votre texte sur Internet. Je vous approche les uns les autres pour écrire votre témoignage, il paraîtra sur Internet, etc. Nous voulons être actifs et pas réduire notre programme d'église simplement à ce qui se passe dans ces locaux. Est-ce que jusque-là, ça va? Voilà, je rappelle simplement ce que j'ai déjà dit. aimer, c'est la flèche qui circule au milieu de nous, c'est communion, communication, contact, connaître, connecter, édification, encouragement, entraide, ressourcement, compassion, amitié, partage. On peut rajouter beaucoup de mots et surtout des mots pratiques. Aimer encore, les forts portent les faibles. On atteint un sommet ensemble encordé. Un troupeau serré peut faire face au loup qui cherche à l'agresser. La sagesse se trouve dans le grand nombre des conseillers. Quelqu'un disait « Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ». Juste quelques citations, comme ça, j'ai mis rapidement sur papier pour motiver et vous encourager à partir dans ce sens. Allez, la flèche qui va dans le monde, par toutes les nations. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. L'apôtre Paul disait « L'amour de Christ me presse ». Alléluia. Nous sommes sauvés pour servir, frères et sœurs. Nous sommes sauvés pour servir. Nous voulons aujourd'hui réaliser que la juste réponse au salut en Jésus, c'est le service. C'est le service. Même si nous avons toujours besoin de motivation et que parfois on peut se fatiguer dans le service, se décourager. Certains se découragent parce qu'on vient leur demander un service uniquement quand on a besoin d'eux. Pour le reste du temps, ben, on les ignore, on les oublie. Il y a des choses à faire attention. Nous ne sommes pas là juste parce qu'on a besoin de nos compétences, mais nous voulons être des frères et sœurs qui sont considérés pour ce que nous sommes. Cependant, Dieu nous a donné à tous des dons. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. 1 Pierre, chapitre 5. Mais nous avons tous besoin d'être remotivés dans le service. Et je voudrais ce matin, justement tout à la fin du culte, avec mes frères, prier pour vous, pour ceux qui sont un peu fatigués, un peu découragés, ou qui ne trouvent pas leur place. Je voudrais que chacun vous puissiez trouver votre place dans le corps de Christ. La place dans l'adoration, dans tout ce qui est relation à l'intérieur de l'Église, édification, vie de prière et tout, tous les besoins pour le bon fonctionnement de l'Église, mais aussi pour l'extérieur, pour l'évangélisation et la mission. Que chacun soit motivé. Le Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, sera capable de te remotiver. Il sera capable de te remettre en route, de te motiver, que tu puisses être libéré de tes complexes en disant « Un autre, il fait mieux ça que moi. Un autre est plus capable que moi. C'est à lui de faire. » Vous savez, si les gens compétents veulent uniquement travailler, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Mais les gens très compétents doivent parfois reculer pour laisser la place aux apprentis, aux petits qui commencent. Et ces gens qui savent faire doivent reculer un peu pour laisser la place aux autres. Et l'Église, c'est ça aussi, c'est une vraie famille, c'est aussi, il faut le dire, osons le dire, c'est une petite entreprise où on apprend un tas de choses. C'est un atelier où on apprend à fonctionner ensemble, les uns avec les autres, dans les bonnes attitudes, dans le bon comportement, dans l'apprentissage que nous avons les uns avec les autres. Ne restez pas sur votre banc, parce que si vous ne servez pas, vous ne grandirez pas beaucoup. Le service vous fait grandir dans votre cœur, dans votre maturité, et le Seigneur attend de nous. Il prendra une église qui est mature, une épouse sans tache ni ride qui est mature. Il prendra cette église-là, dans la maturité, afin qu'il puisse confier encore des choses plus grandes. Si on t'a confié un talent, on te confiera plus tard dans tes récompenses plus encore. Et si tu enterres ton talent, eh bien, Matthieu 25 nous dit que la récompense sera non seulement absente, mais le jugement sera présent. Alors nous voulons prendre à cœur ce que la parole de Dieu nous dit. Retrouvez ce matin le feu sacré pour l'Église, la passion pour l'Église, le projet de Dieu, mais aussi une passion nouvelle pour le service, même si c'est exigeant, même si parfois c'est pas facile. L'Église, c'est le lieu où on reçoit et on donne. C'est le lieu où on découvre plein de choses et on trouve sa place. C'est le lieu où on exerce ses dons et aussi, je l'ai ajouté, on a droit à l'erreur. On a droit à l'erreur. Ce n'est pas grave si on ne fait pas toujours tout juste. Oui, j'en ai fait deux. Tu trouves qu'il faut en mettre trois? Un ou trois, d'accord. On a le droit à l'erreur. C'est sûr que les pasteurs seront plus regardés avec un point sur le i, s'il manque, c'est sûr qu'on le voit plus vite. On a le droit à l'erreur. C'est pour ça, frères et sœurs, dans les dons spirituels, exercez-vous. Si vous nous dites, mais j'ai peur de me tromper, venez nous trouver, nous allons vous entourer et vous défendre. Et pas besoin d'être parfait du premier coup. Personne n'est parfait dans ce sens. Trouver notre service, comment faire? Juste quelques pistes, quelques éléments qui nous permettront de tout à l'heure prier un moment ensemble. La première chose, Romains 12, chapitre 12, versets 1 et 2. Par les compassions de Dieu, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Offrez votre vie, offrez votre corps. Est-ce que quelqu'un veut se mettre à disposition? Est-ce que quelqu'un veut offrir son corps? Seigneur, je t'offre mon esprit, oui, mon adoration, oui, mon âme, oui, mais je t'offre mon corps. Mon corps avec tout ce que ça veut dire. Avec tout ce que tu as mis là-dedans, des compétences, une tête, une réflexion, un bon sens, des capacités. Seigneur, je t'offre mon corps comme un sacrifice vivant. Je me donne à Dieu, et l'apôtre Paul va ajouter à plusieurs reprises, je me donne aussi aux frères, je me donne aussi aux autres. J'offre mon corps. Deuxièmement, je me rends disponible. Écoutez cette petite histoire. C'est l'histoire de quatre personnes qui portent les noms suivants. Écoutez, l'un s'appelle Chacun. Le deuxième s'appelle Quelqu'un. Le troisième s'appelle Tout le monde. Et le quatrième personnage s'appelle Personne. Un travail important devait être accompli. On avait demandé à chacun de s'en occuper. Chacun était assuré que quelqu'un allait le faire. Toutefois, chacun n'était pas sûr que quelqu'un le ferait. Tout le monde se fâcha, car chacun avait reçu la tâche et aurait pu s'en occuper, mais personne ne l'a fait. Quelqu'un s'est également fâché parce qu'il considérait que ce travail était sous la responsabilité de chacun. Chacun savait que tout le monde aurait pu le faire, mais personne ne remarqua que quelqu'un ne le faisait pas. À la fin, chacun accusait quelqu'un du fait que personne n'avait fait ce que tout le monde aurait dû faire. C'est pas moi, c'est quelqu'un, mais oui, voilà. Donc, tout cela, on s'y retrouve un peu. On s'y retrouve un peu. Laissez-vous mettre en place. Vous savez, ce qui crée beaucoup de frictions inutiles, c'est qu'on a tous notre idée comment il faudrait faire la chose. Mais personne, c'est un peu... Aujourd'hui, il y a un grand jour qui se passe pour la France, vous le savez. Mais il y a des pays qui deviennent très difficiles à gérer, à organiser et à diriger. Pourquoi ? Parce que tout le monde veut faire à son idée et on ne se range pas sous l'idée de quelqu'un. Même si ce quelqu'un n'est pas bon, n'est pas parfait, etc., ne me plaît pas. Dans l'Église, frères et sœurs, si on fonctionne comme ça, ça ne marchera jamais, jamais, jamais. Il nous faut accepter, je vous fais référence au message précédent, la notion de l'autorité et de soumission doit fonctionner d'une manière biblique. Et il faut être soumis au Seigneur, soumis aux principes de Dieu, et être d'accord de fonctionner dans une obéissance où le Saint-Esprit va faire ce que nous ne pouvons faire, ou ce qui fonctionne difficilement, de manière humaine. Le Seigneur va nous aider. Que l'esprit de service puisse être réveillé au milieu de nous, c'est ma prière. Personne n'est appelé à être tout le temps ce qu'on appelle, et ce mot n'est pas bien choisi, mais c'est dans le langage populaire, d'être un bouche-trou ou une roue de secours. Personne n'est appelé à faire tout le temps ça. Même si parfois, nous devons faire des choses auxquelles nous ne sommes pas habitués pour faire quelque chose, pour sauver une situation. Mais malheureusement, le corps de Christ parfois souffre à cause justement de ce que certains refusent de prendre leur place. Et ce manque de place, cette place vide, doit être pourvue par des personnes qui ont de la peine à le faire. Et il y a de cela une lourdeur et parfois une frustration qui se passe. Offre ton corps, rends-toi disponible. N'attends pas tout le temps qu'on vienne te chercher et qu'on te téléphone. S'il vous plaît, venez aussi spontanément proposer votre service. Nous ne pouvons pas avoir les yeux partout et penser à tout le monde sans arrêt. Proposez votre service. Merci d'avance. Alors, certains disent, oui, mais qu'est-ce que je peux faire? Une personne disait, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Le Seigneur lui a répondu, ouvre tes yeux. Alors, elle a ouvert ses yeux à la fin du culte, elle a regardé. Et tout à coup, elle a vu une personne triste qui était seule. Alors, elle s'est approchée vers elle. Et elle a commencé à avoir un contact un mot d'encouragement, un sourire, et elle l'invitait à boire un café. Et la relation s'est enclenchée de cette manière-là. Elle a eu un ministère qui a duré longtemps envers cette personne, simplement parce qu'elle a ouvert les yeux. Ouvrons nos yeux et laissons-nous utiliser. Commencez quelque part. Commencez quelque part. C'est ce que je dis toujours à des personnes qui cherchent du travail. Mais n'attendez pas que le rêve que vous avez en tête vous tombe du ciel sur votre vie et que vous puissiez être aujourd'hui un grand chanteur sur une estrade parce que c'est votre rêve. Mais commencez quelque part. Commencez quelque part et ensuite on remarquera votre fidélité, on remarquera vos compétences, on remarquera qui vous êtes, vos qualités, votre caractère, votre joie, votre capacité, votre fidélité. On remarquera tout ça et vous montrer simplement dans l'estime et dans les grades nécessaires pour avancer dans le service. Commencez quelque part. Ne restez pas sans rien. Ne restez pas tout le temps sans rien faire. Ensuite, une chose qui me tient beaucoup à cœur, nous devons œuvrer avec excellence. Nous devons œuvrer avec excellence. Jésus a donné ce compliment à cette femme qui offert le parfum et lui a dit dans Marc 14, 8, à cette femme qui a brisé son parfum, ce vase, et qui l'a répandu complètement sous une forme d'une perte totale, il lui a dit, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a fait ce qu'elle a pu. Quel compliment. Qu'on puisse vous le dire, qu'on puisse me le dire, il a fait ce qu'il a pu. L'excellence n'est pas réservée qu'aux athlètes, aux acteurs de cinéma, aux musiciens, aux constructeurs automobiles ou aux chirurgiens. L'excellence est un témoignage et une carte de visite pour chaque chrétien. Cela demande du temps et de la discipline. Nous attendons du monde l'excellence. Si vous vous faites opérer, vous demandez, si possible, le chirurgien le plus compétent, qui connaît le plus sa spécificité. Si vous menez votre voiture au garage, vous n'êtes pas tout le temps en train de dire « Qu'est-ce qu'il fait avec ma voiture ?» Vous avez confiance qu'il y a quelqu'un de compétent qui prend en charge votre véhicule. Donc nous attendons l'excellence du monde. Est-ce que Dieu attendrait moins de son peuple, frères et sœurs ? Est-ce que nous sommes juste un peuple de bricoleurs, juste à faire comme ça ? Non, nous voulons suivre l'excellence et le Seigneur nous en parle clairement dans sa parole. Lorsque vous lisez Malachie, chapitre 1, le Seigneur va faire un reproche à Israël, il va dire « Pourquoi est-ce que tu m'offres la bête avec la patte cassée ? Parce que tu n'en as plus besoin, elle ne peut pas t'apporter grand-chose, alors tu la portes en sacrifice pour Dieu. » Et Dieu dit « Est-ce que tu ferais ça pour ton gouverneur, pour ton roi ? Est-ce que tu apporterais ça à quelqu'un que tu estimes ? Pourquoi me l'apportes-tu de cette manière ?» Donc, nous ne voulons pas insulter Dieu en apportant le minimum, mais nous voulons l'honorer en apportant le maximum. Persévère. Persévère. Vous allez pouvoir vous inscrire dans différents services. Comme j'ai dit, dans toutes les directions, les trois directions mentionnées. Mais nous ne vous demandons pas de faire un travail avec excellence, le mieux possible, etc. Juste pour une fois. Nous vous demandons un minimum de persévérance. Nous vous demandons un minimum de persévérance. Il est très difficile d'œuvrer lorsque quelqu'un, au bout de deux fois déjà, arrête parce que tout à coup, il n'a plus le temps, ou parce qu'il a un anniversaire, ou parce qu'il est en vacances. Nous demandons vraiment, responsabilisez-vous, s'il vous plaît, avec sérieux, comme si vous étiez embauché par un patron. Vous le faites gratuitement pour Dieu, mais Dieu mérite les mêmes consignes qu'un patron vous propose. Nous vous demandons la persévérance, non pas de toute votre vie, mais juste sur une période donnée. Et pour certains services, il est vraiment difficile de travailler en dessous de 6 mois ou une année. Il est vraiment difficile d'arrêter de changer tout le temps au bout de 2 mois. Donc, si vous dites, moi je peux faire ça 6 mois, c'est très bien. Mais pour certains ministères dans l'Église, il faut vraiment faire un essai d'une année pour voir où on en est. Et puis après, vous êtes bien sûr libre de changer ou d'arrêter. Persévérez et soyez fidèles. Grandir dans le service, et je termine par là, nous grandissons dans le service parce que nous avons reçu du Seigneur. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. Et j'ai déjà dit ce verset de 1 Pierre 4, 10, « Mettons au service des autres le don reçu. » Le service nous permet de trouver notre utilité et nous permet de la croissance également. On a fait une étude par une université qui a mis en relation la foi et le service dans l'Église, un sondage auprès de 7 000 personnes de 35 assemblées différentes. Et ils ont découvert que ceux qui sont impliqués dans un service grandissent en tant que disciples beaucoup plus que les autres. Grandir dans le service, vous allez grandir en expérience, en maturité, en qualité, bien sûr, parce que vous allez apprendre, et en liberté. Libéré dans le service. Au début, on est un peu stressé, mais après, on est libre. C'est comme un musicien, au début, il regarde ses notes, il regarde ses accords, etc. On est stressé. Mais à un moment donné, on entre dans une dimension de liberté. Et là, vraiment, le flot de Dieu coule. Le but, c'est que le flot du Saint-Esprit coule. C'est que par le Saint-Esprit, vous servez le Seigneur avec sa force, son énergie et son onction, et que ça coule au travers de vous. Vous êtes bien préparé, mais vous êtes dans une grande liberté, dans une autorité, dans une onction que permet le Saint-Esprit. C'est là que le Seigneur veut nous conduire tous et chacun. Servir Christ ou servir les autres, l'apôtre Paul va dire, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et quelle est cette récompense? Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail, l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendons encore des services aux saints. Dieu n'est pas injuste. La récompense vous attend. Alléluia. Il y a un livre de souvenirs qui est écrit dans le ciel. Nous le servons. Et j'aime aussi rappeler que celui qui arrose les autres sera lui-même arrosé. Que celui qui porte parfois la semence avec larmes portera aussi les gerbes de la moisson. Et celui qui donne du pain aux affamés ne manquera jamais de pain, ni sa postérité ne mendiera du pain. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia.